Vous êtes bien sur Radio Orient, Wallis Glaise. Gaza. L'Américain Anthony Blinken repart du Proche-Orient sans accord de trêve entre Israël et le Hamas. La journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme est célébrée chaque année le 21 août. Une journée instaurée par les Nations Unies en 2017. Guillaume Denoy de Saint-Marc, vice-président de l'association V Europe, dans ce journal. J-7 avant le début des Jeux Paralympiques. Depuis plus de 20 ans, l'équipe de France de basket fauteuil ne s'était pas qualifiée aux Jeux Paralympiques. Nous écouterons Stéphane Binaud, directeur sportif du basket fauteuil au sein de la Fédération Française du Handisport. Et pendant ces Jeux Paralympiques de Paris, la Tunisie sera bien présente. Regard sur la délégation tunisienne avec l'ambassadeur de Tunisie en France, Dia Khaled, dans notre édition. Pas de résultat concret pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a quitté le Proche-Orient hier. L'objectif du chef de la diplomatie américaine était pourtant clair, obtenir une trêve à Gaza, la libération des otages israéliens et celle des prisonniers palestiniens en échange. Le mouvement palestinien s'est dit désireux de parvenir à un cessez-le-feu, mais a protesté contre les nouvelles conditions posées par Israël dans cette dernière proposition américaine. Lors de sa visite à Jérusalem, Anthony Blinken a laissé entendre que le gouvernement israélien était prêt à accepter la proposition américaine de trêve, bien que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'ait pas confirmé cet engagement. Dans le reste de l'actualité internationale, un responsable du Fatah palestinien a été tué dans une frappe israélienne ce mercredi sur la ville de Saïda dans le sud du Liban. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un chef de l'organisation palestinienne et une source de sécurité libanaise. La journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, elle est célébrée chaque année le 21 août. Il s'agit de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie et qui ont été affectés par des actes terroristes. Une journée instaurée par les Nations Unies en 2017. Guillaume Denoy de Saint-Marc, vice-président de l'association V Europe et ex-directeur de l'association française des victimes du terrorisme. Je vous propose de l'écouter.
Il s'agit surtout d'appeler les États à se rendre compte de la diversité des victimes du terrorisme et surtout des défaillances concernant l'assistance qu'elles peuvent avoir dans beaucoup de pays. On a vraiment une disparité de traitement qui est choquante selon les pays dans lesquels ces victimes ont été affectées ou dans lesquels elles vivent. Et ça, c'est quelque chose qui, par solidarité, nous pose énormément de problèmes. C'est choquant de voir quelqu'un qu'on connaît, qui est très proche de nous et qui n'a pas du tout le même traitement que celui que nous pouvons avoir en France, par exemple. Cette disparité, elle est au sein de l'Europe, mais aussi, bien sûr, à travers le monde. Et il faut vraiment que les États prennent part à une aide concrète, financière, matérielle, sanitaire et sociale de toutes les victimes du terrorisme, sans aucune distinction. Parce que c'est un problème mondial, c'est un problème qui nous concerne tous. C'est un problème lié aux extrémismes qui veulent imposer un mode de vie de façon violente, sans passer par la démocratie. Et donc les États sont au premier chef concernés. Ensuite, il faut aussi éveiller la conscience de tous nos concitoyens, puisque le mot terrorisme est souvent galvaudé, notamment par des États extrémistes ou des États violents. Et il faut que l'ensemble de la société se sente concernée, car n'importe quel citoyen à travers le monde peut devenir, malheureusement, une victime du terrorisme et affronter toutes les difficultés liées à cet état.
Vous évoquez les disparités selon les régions du monde, ces disparités qui concernent les droits des victimes survivantes et des proches des victimes. Sur ce point, comment se situe la France et quels sont les droits des victimes du terrorisme en France ?
Les droits des victimes du terrorisme en France sont assez bien garantis, même s'il reste du travail. Il y a un énorme travail qui a été fait ces dernières années afin de remonter l'ensemble des prestations. Je dirais que jusqu'ici, l'État le mieux disant était l'Espagne. La France l'a rattrapé sur certains aspects, voire l'a dépassé, est en retard sur d'autres. Mais ce qui me chagrine, c'est le fait que c'est le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que malheureusement, tous les autres États sont un peu en retard, voire carrément n'ont jamais pris aucune mesure pour porter assistance aux victimes du terrorisme. Et ce qui pose un énorme problème, puisque de plus en plus souvent, les actes de terrorisme sont transfrontaliers, concernent des ressortissants de nombreux pays. Ils sont quelquefois simplement de passage sur un territoire. Et donc à la fois les locaux et les autres sont frères et sœurs de souffrance, mais ont des traitements qui n'ont rien à voir, et une assistance qui n'a rien à voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous choque, que des victimes d'un même attentat puissent avoir un soutien très très diversifié, soit un soutien assez bien pourvu dans tous les domaines, ou au contraire, aucune assistance. Et ça, c'est très très choquant quand on est... Parce qu'on reste en contact. Nous, les victimes de terrorisme, nous n'avons pas de frontières. Hein. Nous nous connaissons à travers le globe. Et c'est choquant de voir à quel point certaines sont laissées dans l'adversité.
Et ce soutien qui est particulièrement important compte tenu de l'impact psychologique et social des actes terroristes sur les victimes survivantes et les proches des victimes.
Tout à fait. Cet impact est d'autant plus important que ce n'est pas les victimes elles-mêmes qui sont visées. C'est ce qu'elles représentent, c'est-à-dire très souvent la société dans laquelle elles vivent. Et ça, c'est odieux, parce qu'elles sont mises au banc des sociétés, alors que c'est la société elle-même qui est visée.
En 2022, 35% des familles des victimes d'attentats ont exprimé un sentiment d'injustice face à la lenteur des procédures judiciaires. Cela met en lumière cette nécessité d'améliorer les mécanismes de justice et de réparation.
Tout à fait. Il faut à la fois qu'il y ait de la justice, qu'il y ait de la réparation, qu'il y ait bien sûr une assistance médicale. Quelquefois, elle n'est même pas pourvue. Hein. Et puis surtout, après, une fois que tout ça est mis en place, il faut aussi un devoir de mémoire et un travail sur de pédagogie. Parce que ce travail de pédagogie peut aussi permettre d'enrayer les extrémismes. Et pour ça, on salue la création de différents... musées mémoriaux à travers le globe, soit pour un attentat en particulier, soit pour le terrorisme en général. Et je pense en particulier au musée mémorial des victimes du terrorisme qui va être installé près de Paris.
Guillaume Denoy de Saint-Marc, vice-président de l'association V-Europe et ex-directeur de l'association française des victimes du terrorisme, au micro de François-Xavier de Calonne. Nous sommes à une semaine des Jeux Paralympiques de Paris. Depuis plus de 20 ans, l'équipe de France de basket fauteuil n'avait pas participé à un tel événement. La dernière fois, c'était à Athènes lors des Jeux Olympiques de 2004. Un retour des basketteurs français avec de grandes ambitions. Je vous propose d'écouter Stéphane Binot, qui est directeur sportif du basket fauteuil au sein de la Fédération Française du Handisport. Il nous plonge dans l'univers d'un sport où il n'a pas tant de différence entre les règles pour les sportifs valides et en handicap. Écoutez-le.
Le basket fauteuil, c'est 99% du basket ordinaire, du basket valide. La seule différence consiste en l'utilisation du fauteuil pour se déplacer et le fait qu'il n'y ait pas de reprise de dribble, c'est-à-dire que les joueurs ont le droit de progresser ballon en main sur tout le terrain sans reprise de dribble. Sinon, toutes les dimensions du terrain sont identiques. La hauteur du panier est la même, à 3,05 m. C'est vraiment un basket classique.
Quelles sont les nations qui dominent le circuit mondial ?
Alors, c'est également les Américains sur le circuit mondial qui sont champions paralympiques en titre et champions du monde. Il y a l'Angleterre qui a été vice-championne du monde et championne d'Europe qui est numéro 2. Donc ça, c'est plutôt peu banal dans le basket si on fait la comparaison avec le basket valide. Mais sur le basket fauteuil, ils sont très présents et très performants. Et ensuite, on a des nations... comme l'Espagne, la Hollande, l'Allemagne, l'Australie, l'Iran, le Japon, mais qui n'est pas aux Jeux paralympiques parce qu'il y avait eu des problèmes de Covid lors des phases de qualification, mais sinon ça reste une très bonne nation. La France, hein, qui est rentrée maintenant avec la participation aux Jeux paralympiques dans les 8 meilleures nations mondiales. Donc il faut savoir qu'au basket fauteuil, l'adversité et les nations sont très homogènes. En termes de niveau, c'est un sport qui s'est réellement, clairement beaucoup développé ces dernières années, notamment avec l'évolution du matériel, mais surtout la préparation des joueurs, le fait que ce sont des joueurs qui s'entraînent pratiquement tous en vie quotidienne. Donc le niveau a vraiment augmenté et du coup, ça donne un vrai spectacle, mais l'adversité est plus rude.
Pour parler un petit peu de l'équipe de France, ça fait plus de 20 ans qu'elle n'avait pas participé à l'épreuve olympique de basket fauteuil. Quelles sont vos ambitions ?
Alors c'est vrai que ça faisait depuis 2004 que l'équipe de France masculine n'avait pas participé aux Jeux paralympiques. La dernière participation date des Jeux paralympiques d'Athènes. Là, nos ambitions, elles sont malgré tout grandes. On a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition, d'essayer d'accrocher une médaille, entre guillemets, peu importe la couleur, mais d'aller décrocher une médaille, puisque on a réussi à se qualifier à l'issue du TQP, du tournoi de qualification paralympique au mois d'avril, en réalisant un sans faute, donc quatre victoires en autant de rencontres. Pour autant, les nations au TQP n'étaient pas forcément les meilleures nations, hein, puisqu'il y avait 4 places à l'issue du TQP et 4 places qui avaient déjà été attribuées par rapport aux résultats sur les championnats continentaux. Mais cependant, là, sur la préparation, on voit qu'on est vraiment pas loin d'accrocher et si ce n'est peut-être de battre les meilleures nations mondiales. Donc sur peu de matchs, hein, au final, hein, puisqu'on a 3 matchs de poule et ensuite on sort quoi qu'il arrive en quart de finale. Donc on a vraiment 4 matchs à réaliser parfaitement pour accéder aux demi-finales. Sur 4 matchs, vraiment tout est possible, et en plus à la maison en France, avec la ferveur du public qui devrait répondre présent, on sait que ça va forcément nous porter et nous aider à essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition.
Vous venez de l'évoquer, mais les Jeux paralympiques cette année se déroulent à Paris, en France. Que ressentez-vous ?
C'est une fierté avant tout. Je pense que à la fois les membres du staff et les joueurs sont fiers de pouvoir participer à cette belle fête, hein, cet événement mondial qui se déroule à Paris. On espère aussi que l'engouement autour des Jeux et notamment autour de la discipline va nous aider et va nous porter à aller le plus loin possible dans cette compétition. On espère avoir de nombreux supporters et on imagine que ce qui s'est passé un peu sur les Jeux Olympiques, je pense que y a une réelle incidence du public sur la motivation des équipes, et on va s'en servir parce que ça va nous porter. C'est une fierté de pouvoir représenter son pays chez soi, et sur du plus ou moins long terme, on espère que ça va permettre de faire rayonner encore davantage la discipline sur le champ des Paralympiques.
Les épreuves de basket valide se sont d'abord déroulées à Lille, puis à Paris. Où vont se dérouler les épreuves de basket fauteuil ?
Alors, toutes les épreuves de basket fauteuil se déroulent à Bercy, à l'Arena. Ça, c'est la différence avec le basket valide. On a un site de pratique qui est un site aussi mythique, qui est en plein Paris et qui va nous permettre d'essayer de ramener le maximum de personnes.
Pourquoi les auditeurs devraient-ils aller voir les matchs de basket fauteuil aux Jeux paralympiques ?
Parce que c'est une discipline qui est très spectaculaire. On a réellement des sportifs de haut niveau qui manipulent à la perfection leur bolide. Hein. C'est l'équivalent de la Formule 1 du fauteuil, hein, c'est vraiment des prouesses techniques. Ça reste du basket, il y a une entraide, c'est un sport collectif, il y a un réel engouement, c'est vraiment spectaculaire et très intense, donc c'est vraiment plaisant à regarder, hein. Nous on a beaucoup de personnes qui viennent du milieu valide et qui viennent découvrir cette activité et en tombent réellement amoureux. Et puis on a des gens qui, au contraire, n'aimaient pas forcément le basket valide pour x ou y raison et trouvent vraiment quelque chose d'intéressant, parce que c'est vraiment stratégique aussi. Il y a les fauteuils, ça se bloque, ça se débloque, ça se met sur une roue. Il y a même des joueurs qui peuvent sauter un peu avec leur fauteuil, hein. Donc c'est vraiment, vraiment captivant.
Et Stéphane Binot, directeur sportif du basket fauteuil au sein de la Fédération française du handisport, au micro d'Arthur Claude Savoie. Et je vous le disais aussi dans les titres, les Jeux paralympiques de Paris qui commencent la semaine prochaine, je le rappelle, la Tunisie fait partie des délégations qui vont participer aux Jeux paralympiques. L'objectif est de ramener le plus de médailles possible. Regard sur la délégation tunisienne avec l'ambassadeur de Tunisie en France, Dia Khaled, invité de rencontre ce mercredi soir à 19h. Et l'émission également rediffusée demain matin à 10h.
La délégation commence à arriver en France.
Oui.
Moi, je suis confiant parce que à Tokyo, nos athlètes paralympiques ont décroché un nombre assez important de médailles. Et je suis convaincu qu'ils vont refaire la même prestation. Et moi, je m'attends à plusieurs podiums pendant les Jeux paralympiques. Je serai derrière eux. Je vais les encourager. J'ai une affection spéciale pour eux parce que, vous savez, ce sont des gens qui se donnent beaucoup plus qu'ils ne peuvent le faire. Mais vraiment, c'est important de les encourager. On ne peut que les saluer.
Et ce sont les premiers Jeux paralympiques d'été à Paris. Ce sera une première. C'est particulièrement important de mettre en lumière ces athlètes et le fait que ce soit diffusé également en intégralité à la télévision.
Oui, c'est vrai. Ouais, de toute façon, moi, je veux saisir cette occasion pour féliciter la France pour l'excellente organisation des Jeux olympiques. C'était un défi de faire les Jeux à l'intérieur de la ville. C'est la première fois, je pense, qu'on retient ce scénario, ce schéma. C'était pas facile du tout, honnêtement. C'est vrai, derrière les écrans, on ne voit que les belles images. Mais le travail qui est fait derrière tout ça, on ne le voit pas. Mais ceux qui étaient à Paris, ils ont pu évaluer combien c'était difficile de faire les Jeux à l'intérieur de la ville. Et c'était difficile de les réussir. Et la France a réussi à les faire. On peut que féliciter les autorités françaises. Tout d'abord pour ce choix courageux qui a été pris et de pouvoir le concrétiser. Je peux que féliciter encore une fois la France. Et je sais que les Jeux paralympiques seront aussi d'un succès important comme c'était le cas pour les Jeux olympiques.
L'ambassadeur de Tunisie en France, Dia Khaled, au micro de François-Xavier de Calonne. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.